été dans les années 60, le temps béni de l'adolescence. Nous allions, jeunes citadins toulousains, entreprendre une randonnée vers les crêtes allant vers le pic de Pomme-Brumette. Au retour, fatigués et assoiffés, nous nous réfugiâmes devant la cabane de Casabede. Prenant nos aises devant la fontaine qui faisait sourde des profondeurs de la montagne une eau limpide et fraîche, nous commentions les événements propres à l'adolescence. Parfois des rires bruyants, ponctués des réflexions, parfois salaces. Nous étions, c'est vrai, pour le moins irrespectueux dans ce cadre paisible où seules les clarines des brebis répandaient une atmosphère de sérénité. De la cheminée de la cabane, de grosses volutes de fumée traduisaient une intense activité. Tout à coup, un homme coiffé d'un béret basque surgit de la petite habitation, visiblement irrité. Muni d'une bassine, il se dirigeait vers la fontaine afin de prendre de l'eau. À cette époque, l'eau devait se puiser directement à la sortie de la conduite. Par je ne sais quelle intuition, cet homme m'interpella directement en me demandant d'où je venais. Je lui expliquai alors que j'étais un Toulousain venant passer toutes ses vacances à Saint-Eunac. Et bien sûr, la question rituelle me fut posée. Tu es de quelle famille? Tu es de quelle maison? Je déclinai alors mon identité. J'étais le fils de l'ancien boulanger et le petit-fils de Baptistine du Cap de la Bielle. L'homme se retourna, visiblement courroucé, posa violemment la bassine et s'emporta contre Pompidou, lui qui, je l'appris plus tard, était un gaulliste inconditionnel. Ce Pompidou qui ne voulait décidément pas prendre soin du vieux bassin. Il devenait pratiquement impossible de réparer cet abreuvoir car il fallait apporter le ciment à dos d'homme. Il était obligé de colmater les fuites avec des mottes de gazon, des pierres et de la terre. Prenant à main nue une touffe d'ortie, il entreprit alors de récurer les dépôts de crème au fond du récipient. D'un ton sévère et d'un œil furibond, il me montra la cabane en fulminant. « Toi, le petit blanc-bec de la ville, tu crois tout savoir. Tu voudrais peut-être que je te donne les clés de la cabane, que je descende chez moi, à la sous-mer. » « Bergugno, tu devrais avoir honte, toi que j'ai connu tout petit et que j'ai pris dans mes bras alors que tu n'étais qu'un nourrisson. » J'étais l'ami de ton père. Nous avions presque le même âge. En bas, tu vois, c'est la Hougarouse. Nous y avons gardé en même temps les troupeaux quand nous étions jeunes. Ce n'est pas toi qui me donneras des leçons. Je suis Adrien de Jampao et je suis fier de mes montagnes. Mon imagination s'enflamma. Que de confidences de jeunes hommes échangés entre eux. Que de complicité. C'était l'époque où la journée de travail terminée, ils allaient au hameau d'Esbins ou à Bedmal, lors des veillées. On imagine les hautbois rustiques et les champs au tralala. Que de rêves esquissés, que de sourires complices entre garçons et filles. Il y avait aussi les rencontres informelles au col de la Corre où l'on dansait parfois, où l'on rencontrait ceux qui venaient du Costillonnet et du Bedmalet. Le soir, après un repas frugal, il était de coutume d'aller veiller dans la cabane du Tachou, au Sarat de Nart. Dans ce lieu se déclinaient les combinaisons politiques pour les futures élections municipales. On apprenait les derniers événements du canton, comme le suicide d'un malheureux qui se pend dans la solitude la plus extrême, sous la poutre maîtresse d'une grange isolée dans les hautes terres. Adrien paraissait vraiment courroucé. Mortifié par cette scène, me sentant coupable d'indélicatesse, je baissai la tête sous le sourire narquois de mes petits camarades. J'étais prêt à faire preuve d'humilité, tout en me confondant en excuses. Voyant mon extrême confusion, il nous fit entrer dans la cabane. L'œil furibond, d'un geste théâtral, il prit une énorme tome qu'il frictionna énergiquement avec de l'eau de vie. Le parfum de prume se mêla à l'odeur douceâtre du fromage et aux senteurs des essences d'arbres se consumant dans la cheminée. Près de lui, un jeune berger, dont je ne me souviens pas le nom, revenait du col de la Corre chargé d'une grosse bouteille de gaz butane. Visiblement éreinté, ses traits étaient livides, mais il gardait le silence face aux directives qui se multipliaient sur un ton péremptoire. Progressivement, l'intonation de la voix d'Adrien changea. Il me montra les crêtes surplombant les bâtiments de Casabede. Près de la cabane, un édifice bas nommé le fromager permettait, grâce à un dispositif ingénieux de courant d'air, la maturation du fromage dans les conditions les plus parfaites. Devant nous, s'étaler les crêtes de la Houbague à long du cap de Néré, cap Nère au tuc d'échelle, appelé cap de la Houbague par les bergers. La confiance s'installait peu à peu. En fait, cette colère était feinte. Elle revêtait un caractère théâtral voulu. Adrien me montra les crêtes qui faisaient partie de sa vie, qu'il avait connue tout jeune, alors qu'il était encore émerveillé par les récits des longues veillées. Tout un sortilège de noms de lieux défilés. Ces dénominations que j'avais surpris parfois dans les conversations au village prenaient une réalité tangible. Le Ker Salé, le Palairou, le Ker Delpa, le Bédéra. La brume jouait avec la topographie des lieux, dévoilant les escarpements, les paysages austères éclaboussés de lumière. L'émotion m'étreignait peu à peu. La voix d'Adrien tremblotait légèrement et les yeux brillaient. Parler du passé lui tenait vraiment à cœur. Il maîtrisait l'histoire de Casabede, évoquait la reconstruction de la cabane en 1938, juste avant la guerre. Cette année-là, les maçons de Saint-Enac, aidés de ceux d'Alos, se mirent au travail. Des caravanes de mulets et d'ânes transportèrent dans leur hôte du sable recueilli dans les environs du col de la Corre, ainsi que les divers matériaux de construction. Ces hommes, pétris de rudesse, habitués à une vie presque spartiate, étaient là-haut chez eux. Ils étaient les souverains de ce monde minéral et animal. Ces hommes attachés aux hiérarchies de la vie de l'estive tiennent à ces récits devenus mystiques. Ces récits colportaient le soir autour de l'âtre, alors que le vent mugissant au dehors fait craquer la charpente de la cabane. Ils aiment évoquer le souvenir des anciens pâtres devenus au fil du temps des personnages érigés en légende. Ces hommes, qui leur avaient transmis patiemment leur savoir, leur méthode, leurs gestes, étaient pour eux des exemples méritant le plus grand respect. En fait, par cet accueil pour le moins provocateur, Adrien de Jean-Pau souhaitait aborder le dialogue. Par je ne sais quel stratagème, il savait qui j'étais, alors que j'ignorais à l'époque jusqu'à son visage. Ce jour-là, grâce à Adrien, je découvris un monde insoupçonné, un monde fait de rudesse, de sacrifices consentis et de pratiques rituelles. Cette fidélité, ce respect pour les anciens, assorti de comportements parfois provocateurs par rapport à ceux qui viennent de la ville, s'explique par ce désir de reconnaissance de leur identité. Il parlait déjà du comportement de certains estivants imprudents. Adrien me raconta qu'un soir, alors que le brouillard s'estompait, le paysage disparaissait. Il entendait des cris sur les hauteurs. Se munissant d'une torche, il se dirigea vers le Tuc d'Elpa, où un randonneur à détresse demandait de l'aide. Après avoir été recueilli, ce dernier lui jura une reconnaissance éternelle. En fait, il n'eut jamais de nouvelles, ce qui blessa profondément Adrien. Et combien de fois il aborda ce sujet. Ce jour-là, une amitié faite de respect, d'écoute me lia à Adrien de Jean-Pau. Nos nombreuses rencontres suivies et tout un pan de la civilisation pastorale du Couserans me fut dévoilé. Merci à vous, Adrien de Jean-Pau. Je vous souhaite de passer une excellente soirée.